ce soir à la Monnaie, c'est un opéra de Richard Wagner, long de 3h30, qui traite de chevalerie, de trahison, d'amour et d'un oiseau céleste. C'est un cygne. L'occasion peut-être d'évoquer l'une des faces les plus noires de Richard Wagner, son antisémitisme radical.
Alors Camille, qu'en est-il ?
Bien, tout naît pour Richard Wagner d'un traumatisme. Il est un jeune compositeur impécunieux. Il cherche partout de l'aide pour monter ses œuvres. Il va même jusqu'à ramper pour être le copiste de compositeurs plus illustres. C'est dans ce cadre qu'il démarche un certain Giacomo Meyerbeer, compositeur de grand succès, auquel il propose textuellement d'être son esclave. Meyerbeer, qui est juif, lui prête généreusement de l'argent, le prend sous son aile et l'aide à monter son premier opéra. Mais l'opéra est un bide complet. Un peu plus tard, alors que Wagner monte un autre opéra à Paris et qu'on le reçoit sous les huées, les œuvres de Meyerbeer, elles, seront accueillies triomphalement. Alors ça, Wagner ne va jamais s'en remettre.
Et du coup, que se passe-t-il ?
En 1850, il publie un essai sous pseudonyme, un essai terrible, intitulé « La judéité dans la musique ». Le nom de plume qu'il se choisit est éloquent, je traduis, hein, c'est Karl Libre-Pensée, preuve que souvent les pires inanités peuvent être exprimées sous la bannière de la Libre-Pensée. Dans cet article, Wagner déroule son dégoût des juifs, prétend que le juif, n'ayant pas d'idiome propre, est condamné à maltraiter les idiomes des autres et à dénaturer leur culture. Alors un seul salut aux yeux de Wagner pour eux, la conversion au christianisme, comme l'écrivain Ludwig Born, ancien juif converti, que Wagner cite en exemple. Alors certains voient même dans ce pamphlet un appel ouvert à l'extermination des juifs, mais la majorité des chercheurs le comprend, ce texte, et c'est déjà assez grave comme ça, comme un appel à l'apostasie, à l'éradication de la judaïté, comme religion, comme tradition et comme racine.
Et il poursuit dans cette veine ?
Pas vraiment, parce que 18 ans plus tard, sa mère meurt et Wagner hérite de l'ensemble de sa correspondance. Et il est plutôt terrorisé d'y découvrir l'identité véritable de son père biologique, un comédien qui aurait eu des ancêtres juifs. Alors son antisémitisme en prend un coup, mais ne s'éteint pas totalement. Il poursuit donc ses attaques à fleurets mouchetés, mais sans équivoque. Paradoxalement, il entretiendra toute sa vie des liens d'amitié intenses avec des juifs, notamment avec le chef d'orchestre Hermann Lévy, ouvertement juif bien sûr, et dont le fils était rabbin, qui non seulement accompagnera Wagner jusqu'au tombeau, et en portant littéralement son cercueil, mais fut choisi aussi par le compositeur pour créer son dernier opéra Parsifal.
Pas à contradiction, à une contradiction près, donc, et quels sont ces liens avec le nazisme auquel on associe souvent Richard Wagner ?
Wagner meurt 6 ans avant la naissance d'Hitler. Mais pourtant, il sera choisi par le Führer comme l'un des emblèmes du Reich. Hitler déclare même qu'il n'existe qu'un prédécesseur légitime au national-socialisme et que ce prédécesseur se nomme Wagner. Les nazis font de Bayreuth, hein, la ville élue par Wagner pour héberger son festival, l'un des temples de leur dogme visqueux. Raison pour lesquelles l'exécution d'œuvres de Wagner est toujours jugée déplacée en Israël aujourd'hui. Et quand le chef israélien Daniel Barenboim a pris tout le monde par surprise à Tel Aviv en 2001 en jouant à l'issue d'un concert, l'ouverture de Tristan et Iseu, bien une partie de la salle s'est indignée, l'autre a applaudi. Car il faut aujourd'hui tenter de distinguer le petit personnage répugnant de la musique géniale qu'il a composée et se résigner à accepter l'idée que parfois les roses poussent sur un tas de fumier.